Donc, je veux vous parler de beaucoup de choses, hein, d'un domaine, d'un nouveau domaine, surtout d'un nouveau domaine de la physique qui s'appelle la spintronique. Parfois, on dit que c'est, on l'a défini comme un nouveau type d'électronique qui, contrairement à l'électronique conventionnelle, n'utilise pas simplement la charge de l'électron, hein, mais aussi utilise le petit moment magnétique, le spin des électrons. Alors, je vais vous parler de développement récent et de perspectives en spintronique. Vous savez que vous êtes tous chercheurs. Vous savez que pour les chercheurs, c'est beaucoup plus excitant de voir ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans quelques années que de regarder vers le passé. Mais en fait, quand même, je vous parlerai aussi du début de la spintronique et comment on est arrivé là. Voilà, parce qu'en fait, les journaux et ce qu'a dit Alain, c'est la spintronique est surtout connue pour la magnétorissant géant, dont les journaux ont parlé au moment du prix Nobel, à cause surtout des applications bien connues et populaires de la magnétorissant géante au disque dur, aux iPods, à l'augmentation de la capacité de mémoire de ces systèmes. Mais en fait, de mon point de vue, et vous comprenez bien ce point de vue, une découverte unique comme ça, c'est une étape. Hein, c'est une étape. En fait, il y avait des choses avant. Hein, il y a eu des choses avant. La physique fondamentale qui a permis d'arriver à cette découverte. Et ensuite, la découverte de la magnétorissant géante a développé les recherches dans ce domaine et a révélé beaucoup d'autres propriétés liées au spin des électrons dans les propriétés de conduction électrique. Énormément de nouveaux effets ont été révélés et ça donnait la spintronique d'aujourd'hui qui se développe dans de multiples directions. Actuellement, c'est vraiment une effervescence totale dans beaucoup de directions et je parlerai de ces directions actuelles. Donc, je vais commencer. Alors, la première projection, alors ça marche comment? Ici, c'est rouge. Okay. Je résume ce qu'est en gros la spintronique. Donc, c'est basé sur l'exploitation du spin des électrons dans les propriétés de conduction électrique. En fait, ça exploite ça fait passer les électrons dans des matériaux magnétiques, comme le fer, des matériaux aimantés, et ça exploite le fait que dans un corps magnétique, la mobilité des électrons est différente pour les électrons dont le spin est dans la direction de l'aimantation et dans la direction opposée. Et au fond, c'est ça le principe, et ce principe est exploité nécessairement dans des nanostructures. Il faut aller à l'échelle nanométrique pour pouvoir exploiter ces effets, on le verra. Ces nanostructures peuvent être des multicouches magnétiques, des jonctions tunnels magnétiques, des piliers, des nanocontacts, et ça donne les effets de spintronique. La GMR, c'est la Giant Magnetic Resistance, c'est celui qui a été découvert, l'effet qui a été découvert en 88, hein, le GMR, mais il y a des effets semblables. La TMR, c'est des effets classiques, Tunneling Magnetic Resistance, qui ont déjà des applications. Alain a déjà parlé des têtes de lecture pour disques durs, pour des ordinateurs, des baladeurs, un certain nombre de capteurs aussi, mais la TMR a déjà des applications aussi dans ce qu'on appelle les MRAM. Hein. C'est de nouveaux types de RAM qui apparaissent dans les ordinateurs. Et actuellement, la spintronique se développe dans de multiples directions. Les phénomènes de transfert de spin, que je vais. La fusion avec l'électronique habituelle, spintronique avec semi-conducteur, la spintronique moléculaire. Par exemple, ça, c'est un effet de magnétorésistance, c'est-à-dire de variation très forte de résistance en présence d'un champ magnétique. Ça, c'est l'effet à peu près. Transfert de spin, c'est autre chose. Si je veux décrire un effet de transfert de spin, si vous avez un corps magnétique, dans une expérience de transfert de spin, il va être possible de manipuler l'aimantation de ce corps magnétique sans appliquer de champ magnétique comme d'habitude, mais par une espèce de transfusion de moments angulaires de spin amenés par un courant électrique, une espèce de transport à distance d'aimantation. C'est un peu l'inverse de la magnétoïssance géante, qui est une détection de configuration magnétique par un courant électrique. Là, c'est une construction d'aimantation par un courant électrique, ça peut être utilisé pour commuter, on le verra, je reviendrai là-dessus, une aimantation. Ça va être utilisé dans l'écriture de mémoire, très prochainement, ou ça peut être utilisé pour faire osciller l'aimantation et générer des oscillations dans la gamme de fréquences des ondes radio et des micro-ondes. Et ça va avoir aussi des applications prochaines en télécommunication pour l'émission radio. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les directions qui se développent actuellement. Évidemment, je vais commencer par le début, je vais commencer par la physique de base, c'est-à-dire l'influence, comment le spin interagit avec la conduction électrique. C'est dans l'introduction, spin dependent conduction, GMR, TMR, le début de cette histoire. Ça représente ce qu'on appelle une densité d'état d'un solide magnétique. Vous savez que dans un solide, les énergies sont dans des bandes. Il y a des bandes interdites et des bandes permises. Et la caractéristique d'un métal ferromagnétique, comme le fer, c'est un décalage des bandes, stabilisé par ce qu'on appelle l'énergie d'échange entre les spins électroniques. Donc, on a ce décalage des bandes D du fer. Et on a ce qu'on appelle les électrons de spin majoritaires. On remplit les bandes jusqu'au niveau de Fermi. Et donc une bande est plus remplie que l'autre, c'est l'origine du ferromagnétisme spontané de métaux comme le fer. On parle d'électrons de spin majoritaires et minoritaires dans la bande qui est moins remplie, ou d'électrons de spin up et spin down. Et si on considère les propriétés de conduction électrique, à cause de ce décalage, les électrons qui conduisent le courant, ceux au niveau de Fermi, sont dans des fonctions d'onde différentes, des états complètement différents de façon générale, et vont conduire différemment. Et en première approximation, la conduction électrique dans un métal comme le fer, ferromagnétique, c'est une conduction par deux canaux indépendants de conductivité ou de résistivité, rho up, rho down. Voilà. Et le contraste entre les deux canaux peut être très important. Si vous voulez, ici, vous voyez, vous savez que la résistivité d'un métal dépend beaucoup des défauts et des impuretés, donc on peut la contrôler par mettant des impuretés qui freinent les électrons. Ceci, c'est la résistivité induite par 1% de ces impuretés-là dans le nickel pour les deux directions de spin, rho down, rho up. Vous voyez que le rapport entre les deux résistivités, les résistivités de canaux, pour des impuretés de cobalt, le canal rho down minoritaire est 20 fois plus résistif que le canal de rho up. Et au contraire, ça s'inverse pour d'autres impuretés. Et donc, on peut vraiment contrôler ce contraste entre les deux canaux en introduisant des impuretés qui vont freiner différemment les deux directions de spin. Ça, c'est pas nouveau comme résultat, c'est un résultat de ma thèse que j'ai passée en 1970. Déjà, à cette époque, on comprenait plus ou moins l'origine de ces effets-là dans les théories développées par Friedel. C'était l'époque où Friedel et son équipe avaient éclairci tout un tas de problèmes sur la structure électronique de ces métaux-là. Pourquoi une impureté de chrome présente cette très forte résistivité dans la bande de spin-up majoritaire? Parce qu'on se trouve dans une situation que je décris de la façon suivante, c'est qu'on a un niveau du chrome qui est près du niveau de Fermi et qui donne lieu à ce qu'on appelle une diffusion résonante, qui donne beaucoup de freinage des électrons. Ça, c'était les théories développées déjà à l'époque, depuis ont été confirmées par des calculs numériques de structures électroniques. Et déjà à l'époque, si vous voulez, on avait des expériences qui contenaient déjà le principe de la magnétoïssance géante. des expériences sur des alliages ternaires. Alors, on va voir apparaître ce qui ensuite a pu être exploité avec la magnétométrie tangente. Supposons que dans le nickel, je mette deux types d'impuretés et je suppose d'abord que les deux impuretés ont des asymétries de spin opposées. C'est-à-dire que l'impureté A va introduire beaucoup de freinage, les grosses boules, dans le canal de spin down et va laisser le canal de spin up libre et B agira de façon opposée. Alors évidemment, si on met les deux en même temps, les deux canaux sont bloqués, il n'y a plus de canal de libre et on s'attend à une augmentation forte de la résistivité de cet alliage ternaire de nickel, comme on voit dans ces résultats expérimentaux de l'époque. Pour la résistivité pour un alliage ternaire avec du cobalt, 1% au total d'impuretés de cobalt et de rhodium, eh bien, au lieu d'avoir une variation progressive entre la résistivité du nickel-cobalt et nickel-rhodium, eh bien, on voit quand les deux sont ensemble, on a une augmentation nette de la résistivité. Au contraire, si on a choisi deux impuretés qui ont la même asymétrie de spin, bon, elles vont évidemment bloquer un des canaux, mais il restera une possibilité de court-circuit, un canal va rester libre, et l'émettre en même temps ne va pas augmenter beaucoup la résistivité, ce qu'on voit pour or et cobalt dans le nickel. Alors, quel est le principe de la magnétométrie géante? Pourquoi ne pas remplacer les deux impuretés A et B en plaçant sur le trajet des électrons deux couches magnétiques. Deux couches magnétiques, si les aimantations sont en direction opposée, eh bien on va se trouver dans la situation de gauche, c'est-à-dire qu'une couche bloquera le courant dans un canal et l'autre dans l'autre. Et au contraire, si on aligne les aimantations en plaçant un petit champ magnétique, eh bien à ce moment-là, on se trouve dans la situation de droite, et une direction de spin, au moins dans un canal, les électrons pourront traverser facilement les deux couches. D'accord. Mais si on connaît, donc, avec la facilité, qu'appliquer un champ magnétique, c'est plus facile que fabriquer un deuxième alliage. Mais si on connaît les équations de transport, on sait que les électrons vont être capables de voir, de sentir si les deux couches voisines vont avoir des aimantations parallèles ou opposées, si leur distance est plus petite que ce qu'on appelle le libre parcours moyen des électrons. Et on sait que dans les couches métalliques, ce libre parcours moyen va être de quelques nanomètres. Donc, évidemment, il faut que les couches, tout au moins les couches d'espacement entre les deux, soient très très fines. Et à l'époque, en 70, à l'époque de ces résultats-là, évidemment, on ne savait pas faire des couches aussi fines. C'était technologiquement pas possible. Mais les progrès, dont moi j'ai mis certaines idées au frigidaire, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres problèmes très différents. Les chercheurs, on a toujours des idées. C'est plutôt le temps qui manque plutôt que les choses à explorer. Par contre, ensuite, avec le développement de la microélectronique, sont venues des technologies pour le dépôt sous ultravide de couches extrêmement fines. Et dans les années 80, c'est arrivé au début des années 80, à la fin des années 70, et donc sont venus les moyens, ça c'est un appareil d'épitaxie par jeu moléculaire, vous voyez, une enceinte ultra-vide dans laquelle on va pouvoir déposer sans pollution aucune, sans oxydation des couches extrêmement fines, une couche atomique, deux couches atomiques, avec tout un tas de contrôles, de moyens de caractérisation pour caractériser in situ ce qu'on est en train de faire pousser. Le terme, c'est pousser. Donc, à ce moment-là, moi, personnellement, ce genre de moyen d'appareil qui est très cher n'existait pas à l'université, mais existait à la compagnie Thomson. Donc, j'ai établi une collaboration avec Thomson. J'avais un copain qui travaillait à Thomson et qui développait ce genre de technique. Et rapidement, il a été possible de fabriquer des multicouches comme celle-ci, dont par exemple, les boules, ce sont des atomes, trois couches atomiques de fer, trois couches atomiques de chrome, etc. C'est ce qu'on appelle une multicouche magnétique. Pourquoi fer et chrome? Pourquoi fer et chrome? Ben, là, ça vient du fait, c'était en 86, Peter Grandberg commençait aussi le même genre de préparation technologique et avait trouvé que pour certaines épaisseurs de chrome, typiquement 3 atomes, 3 distances atomiques, eh bien, il y avait les aimantations des couches adjacentes de fer interagissaient, l'espacement était petit, interagissaient, c'est un échange indirect, interaction d'échange indirect, peu importe le vocabulaire, de façon que les aimantations soient en direction opposée. Donc ça apparaissait comme un système idéal pour se retrouver dans les conditions que j'ai décrites et être capable, dans un système avec plusieurs couches successives, en appliquant un champ magnétique, de faire passer de antiparallèle, ce qu'on appelle antiparallèle, à parallèle pour les aimantations. Et ça aboutit donc à la découverte de la magnétruissance géante dans des multicouches fer-chrome en 88, à la fois à Orsay et en Allemagne. Donc, ça, c'est le résultat d'Orsay. Comment ça se traduit, la magnétoresistance? On applique un champ magnétique, ça, c'est la résistivité en fonction du champ. En appliquant un champ magnétique, champ, les aimantations sont en direction opposée. On les aligne en appliquant un champ magnétique. À cette époque-là, on travaillait avec des systèmes avec couplage très fort, mais actuellement, on sait que parfois, il suffit de très peu pour aligner. Et on voit la résistivité chuter fortement, un effet de 80%, ce qu'on appelait magnétruissance géante. Ça, c'est les effets de Jülich. Évidemment, ça arrive pour des épaisseurs très fines. Vous voyez, 0,9 nanomètres, à peu près la place pour 3 atomes de chrome, hein, l'effet maximum. Hein. Le courant n'est pas perpendiculaire aux couches, mais ça peu importe. Même si le courant est le long des couches, il y a toujours un mouvement aléatoire des électrons, une vitesse random. De toute façon, les électrons sont, à cause de ce mouvement aléatoire, traversent toutes les couches et l'effet est le même. Hein. Donc, l'interprétation, c'est la même que pour les élages ternaires. Hein. Je peux encore la résumer. Si toutes les aimantations sont parallèles, eh bien, supposons une direction de spin va pouvoir traverser facilement toutes les couches magnétiques, et donc on va avoir une faible résistance, un court-circuit par ce canal. Et au contraire, dans la configuration de champ nul, où les aimantations des couches voisines sont antiparallèles, eh bien, dans les deux canaux, les électrons vont être freinés, presque stoppés, une fois sur deux. Et donc la résistivité, il n'y aura plus de court-circuit par un canal, la résistivité va être beaucoup plus haute. Alors évidemment, il faut que les épaisseurs soient très fines, comme vous le voyez au fond. C'est typique en recherche. Les avancées viennent souvent, de la rencontre entre des avancées dans deux domaines différents. Là, c'est venu de la rencontre entre une base de physique fondamentale, hein, et puis des progrès technologiques. Hein. Souvent, parfois, ça arrive à la rencontre, à l'interface entre deux domaines différents, mais enfin, c'est souvent de ces rencontres qu'arrivent des avancées. La partie fondamentale était un peu en avance, il a fallu attendre les progrès technologiques. Et on verra tout à l'heure, on verra dans le reste, qu'au fond, il se trouve que vous voyez qu'il y a une longueur d'échelle typique dans ces phénomènes qui font que les effets du spintronique, on les attend à l'échelle du nanomètre. Hein. Et donc on verra que tous les développements de nanotechnologies récents ont permis de fabriquer des structures de plus en plus complexes, d'imaginer dans sa tête des structures un peu plus complexes que ces multicouches ultra simples, hein, et de progresser, de trouver d'autres effets de spintronique. Au fond, là, ensuite, il y a eu les choses ont progressé, toujours grâce à la combinaison de progrès technologiques, et puis, on le verra, aussi de meilleure compréhension des phénomènes de transport électrique dans les métaux magnétiques, dans les corps magnétiques en général. Alors évidemment, cette interprétation elle est trop simple, elle est plus compliquée. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas en parler. Il est évident qu'il faut tenir compte aussi, si on veut bien comprendre tout ce qui se passe, des réflexions des électrons aux interfaces, de la rugosité des interfaces, encore un problème technique. Ça a été les développements. Actuellement, si vous voulez, il y a des modèles de calcul de structures électroniques de ces cristaux artificiels, je dirais, basés sur l'équation de Schrödinger en présence d'un potentiel périodique, qui permettent même de prédire numériquement et d'optimiser les magnétoresistances géantes de multicouches magnétiques. Je dis quelques mots des applications. L'application la plus connue et la plus importante économiquement, c'est l'application au disque dur. Dans un disque dur, donc, l'information est stockée sur des pistes circulaires. Alors, une piste, c'est un ruban, une piste dans un circulaire, sur une couche magnétique. Et l'information est stockée sous la forme de bits, c'est-à-dire de segments, dont l'aimantation peut être dirigée vers la droite ou la gauche. Là, on n'est pas encore à l'échelle nanométrique actuellement. 50 nanomètres, c'est un peu intermédiaire entre nano et micro. Là où on est à l'échelle nanométrique, c'est le capteur. C'est le capteur qui est un capteur GMR, c'est-à-dire une multicouche magnétique, dont le rôle va être de capter, de sentir les champs magnétiques générés par les bits. Les bits génèrent des petits champs magnétiques au pôle nord et au pôle sud de chaque bit. Et quand la multicouche magnétique est voisine de ces champs magnétiques, elle laisse passer mieux le courant. La magnétoresistance fait que sa résistance électrique baisse, un courant passe et on le détecte. Et donc, avec la sensibilité de la magnétoresistance géante, qui est, mettons, il y avait des capteurs avant magnétorésistifs, mais qui avaient des résistances de 1%, 2%, maintenant 80%, c'est plus important. Il a été possible de détecter donc des champs magnétiques plus petits, donc de détecter des bits plus petits, donc de réduire la taille des bits et d'en mettre beaucoup plus sur le disque. Actuellement, au fond, c'est ce qui est. On est passé d'un gigabit, actuellement on a du 600 gigabits par pouce carré. Donc voici, bon, ça va encore augmenter un peu. Les futurs problèmes, ce sera plutôt de réussir à faire des bits plus petits, d'écrire des bits plus petits sur les. Là, je n'ai pas parlé d'écriture, le problème d'écriture n'était pas crucial jusqu'à présent, mais maintenant le problème va être l'écriture et il faudra des matériaux un peu plus organisés. Et non pas simplement une couche de métal magnétique, ce sera des matériaux où on aura déjà, par des techniques, des nanotechnologies, dégagé un certain nombre de tout petits bits magnétiques sur les pistes. Bon, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Le fait important aussi, ça a été qu'avec cette augmentation de la densité, ce qui était le disque dur qui était limité à l'usage des ordinateurs, et il est devenu possible de l'étendre à l'électronique portable. Il a été possible de fabriquer des disques durs de la taille d'une pièce monnaie, mais qui puissent contenir quand même pas mal d'informations. Par exemple, il y a un disque dur de cette taille, fabriqué par Toshiba, qui a 100 gigaoctets, et qui va apparaître dans des iPods. Actuellement, il y a déjà des iPods, d'ailleurs, je crois, à 200 gigaoctets. Voilà, il y en a de petits, des iPods avec des mémoires flash et des gros avec des disques durs. Excusez-moi. Ah oui, du coup, aussi, il y a eu un certain nombre d'applications dans des directions diverses. Je cite un type d'exploitation de la GMR. Dans les techniques biomédicales, l'analyse par exemple de biomolécules, supposons qu'on veuille analyser des antigènes, antigènes PSA par exemple. Bon, la technique c'est de les piéger par l'anticorps correspondant. Et dans un certain nombre de dispositifs d'analyse développés par Philips et par plusieurs autres compagnies, eh bien, la technique, c'est aussi de mettre dans le fluide les mêmes anticorps délabellés, décorés par une petite particule magnétique qui vont donc se coller aussi sur les antigènes et de détecter le champ magnétique créé par ces particules magnétiques avec un capteur GMR avec beaucoup de sensibilité. Et donc, dans les dispositifs développés actuellement, avec la sensibilité de la GMR, il est possible de détecter uniquement quelques molécules et donc de se limiter à des capteurs, à ces chips, là, ces puces, uniquement de quelques microns. Et donc le projet, c'est de développer, enfin c'est des prototypes qui existent déjà, de développer des analyseurs qui comprennent un millier de capteurs différents pour un millier de molécules différentes. Hein, si vous voulez, pour être capable, avec le même appareil, de non seulement d'analyser tel type de molécules, mais d'avoir un grand panel de molécules diverses. Hein, donc un truc, tout petit appareil qui permettrait de faire en parallèle tout un tas d'analyses et non pas une seule. L'autre application économiquement importante, c'est les capteurs pour l'industrie automobile. Chacun actuellement dans les autos, il y a énormément de capteurs pour contrôler les freins ABS, pour commander les freins ABS, l'airbag, compter les tours, etc., synchroniser tout ça. Et bon, on utilise pas mal des capteurs GMR. J'ai cherché dans les sites d'industrie voiture, mais je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé ça. C'est un type de voiture un peu spécial, mais ça veut dire que la GMR est aussi appliquée sur les autres planètes, ce qui peut vous intéresser aussi, vous, hein, particulièrement. OK. Voilà, donc j'ai parlé de la magnétoroscopie, c'est la première étape. Hein, et donc, ces applications ont boosté pas mal les recherches et ont abouti à d'autres découvertes. Hein. Et une deuxième étape importante, qui a déjà des applications, c'est la TMR. C'est un peu comme la GMR. Cette fois, on a deux couches magnétiques, mais cette fois séparées par une couche isolante très fine, typiquement moins que le nanomètre. Et la conduction, à ce moment, à travers la couche isolante, se fait par ce qu'on appelle l'effet tunnel. Vous n'avez pas l'habitude de raisonner à cette échelle du nanomètre, vous, hein, bien sûr. Mais en mécanique quantique, vous savez que les particules ne sont pas localisées, elles sont une fonction d'onde qui bavent des deux côtés. Et si la couche isolante est trop fine, eh bien, les fonctions d'onde de l'électrode du haut va baver de l'autre côté. Et ça correspond à une probabilité de passer par effet tunnel, ce qu'on appelle un effet tunnel, à travers une barrière tunnel. On a ce qu'on appelle une jonction tunnel magnétique. Et la propriété, c'est un peu la même que pour la GMR, c'est-à-dire qu'on va avoir des résistances de ces jonctions différentes pour les configurations parallèles et antiparallèles, avec l'avantage qu'avec cette géométrie verticale, il est possible, par des techniques de lithographie, de découper des pavés très petits, 0,1 micron. Donc, ce genre de jonction tunnel magnétique, en fait, il y a eu déjà une amorce de résultats en 1975, mais qui avait été tellement difficilement reproductible que l'idée avait été plus, enfin, ça n'avait pas été poursuivi. Et c'est simplement depuis 1995 que deux groupes, États-Unis, Japon, ont trouvé les technologies pour fabriquer ce type de structure avec des couches d'alumine amorphe entre les deux électrodes et pour trouver des magnétoïssances importantes. Et cette première génération de jonction tunnel magnétique a déjà quelques applications. En fait, on l'applique déjà dans certaines têtes de lecture de disques durs. Et puis, il y a une application qui s'appelle MRAM. Vous savez que dans votre ordinateur, vous avez une mémoire de masse énorme, c'est le disque dur. Mais le défaut du disque dur, c'est que l'accès est relativement lent. Il faut à peu près une milliseconde pour un bit, pour accéder. Pour faire passer, écrire, lire un bit, ce qui est évidemment beaucoup trop lent pour la vitesse actuelle des ordinateurs, quelques gigahertz. Hein. Et donc, quand vous allumez votre ordinateur, vous stockez ce qui vous intéresse dans la mémoire dans des RAM. Hein. Ce sont des mémoires à semi-conducteurs. L'information est stockée sous la forme de la charge, donc condensateur. Hein. Et les RAM ont un temps d'accès très rapide. Hein. Ce sont des réseaux de cellules. On accède individuellement à chaque cellule, une nanoseconde, quelques nanosecondes pour le temps d'accès à une RAM, hein, surtout les SRAM. Mais le défaut des RAM, c'est qu'elles sont volatiles, c'est-à-dire il faut de l'énergie pour conserver la charge. Il y a des fuites de courant, et donc vous savez bien que elles meurent quand vous éteignez l'ordinateur, vous êtes obligé de sauvegarder. Et même les RAM les plus denses, les 10 RAM. On est obligé de rafraîchir la mémoire, de la réinscrire à l'identique toutes les millièmes de seconde. Donc, elles ont un certain nombre de défauts, de qualités et de défauts. Donc, l'objectif des RAM, c'est de remplacer, d'utiliser comme cellule mémoire ces jonctions tunnels, avec 0 et 1 pour les deux, stocker l'information 0 et 1, les configurations parallèles et antiparallèles. Voici le schéma d'une RAM, vous voyez, une des réseaux de ces cellules mémoire, avec l'écriture se faisant par les champs magnétiques générés par des pulses de courant dans ces lignes de courant jaunes, de façon que le champ magnétique soit suffisant pour commuter la mémoire à l'endroit où se croisent les lignes. La lecture se fait en lisant simplement la résistance. La première génération qui existe depuis 3 ans n'a pas beaucoup d'applications. Il y a eu beaucoup de difficultés, en particulier pour l'écriture. L'écriture, enfin, un champ magnétique n'est jamais très localisé, hein, donc il y a de gros problèmes. On ne peut pas rapprocher les voisins suffisamment, sinon, quand on veut commuter celle-ci, eh bien, ce sont les voisins qui commutent également. Mais on attend beaucoup plus de la prochaine génération, qui va s'appeler STT-RAM, qui est déjà bien avancée, qui va utiliser certains progrès des jonctions tunnels magnétiques, dont je dirai quelques mots, et puis l'écriture par le phénomène de transfert de spin dont j'ai parlé, c'est-à-dire une écriture par transport à distance d'aimantation, purement électronique, et non pas par ces effets de champ magnétique qui bavent un peu de tous les côtés. Donc je dis deux mots des progrès sur les jonctions magnétiques, parce que au fond, ça me donne l'occasion de montrer que il n'y a pas que de la technologie, que ce qui est impliqué, c'est aussi des progrès dans la compréhension des propriétés électroniques de matériaux. Hein. Donc, le gros progrès est venu quand on est passé à des jonctions tunnels magnétiques, par exemple avec des barrières de MgO, monocristallines. Vous voyez, par exemple, cette photo de microscopique, on voit les atomes de Mg, de magnésium et d'oxygène en ligne, un arrangement cristallin. Ça donne de très forts effets de magnétorésistance. 500%, ça veut dire qu'on passe de 1 à 6 quand on passe de parallèle à antiparallèle pour l'aimantation des couches de fer ou de cobalt qui sont des deux côtés. Et puis, la physique est pas mal, je vous en parlais, enfin je fais un peu de physique de matière condensée, même si vous n'êtes pas très familier des concepts de la physique de la matière condensée. Mais je vais en dire quelques mots. Au fond, pourquoi, quelle est la physique de base qui explique que c'est très fort contraste entre la résistance des jonctions tunnels pour les configurations parallèles et antiparallèles? En fait, dans un métal comme le cobalt, par exemple, il y a des fonctions d'onde qui sont caractérisées par diverses symétries. La symétrie de la distribution autour des sites atomiques, hein. Donc, dans ce cobalt, vous avez des fonctions d'onde de symétrie delta 1, delta 5, etc. Et de même, dans le magnésium, c'est un isolant. Il n'y a pas de fonction d'onde délocalisée, mais il y a des fonctions d'onde qui décroissent exponentiellement, qui traduisent l'effet tunnel. Mais elles aussi, on appelle ça, dans notre langage, des fonctions de bloc à vecteur d'onde complexe, hein, la partie imaginaire décrivant la décroissance. Mais aussi, ces fonctions d'onde ont aussi des symétries. Et il se trouve que là, on peut montrer que ce qui va décroître exponentiellement le plus lentement, ça va être la symétrie delta 1. Et donc, on aura une possibilité, un canal très ouvert, enfin, meilleur canal tunnel de la symétrie delta 1. Mais l'autre point, c'est que si on considère le cobalt, la symétrie delta 1 n'existe que dans la bande de spin majoritaire, le spin up. Donc, pas de problème si les aimantations sont parallèles. Hein. Un électron peut partir d'un état delta 1 de la bande de spin majoritaire, prendre ce canal et se retrouver, trouver de la place dans l'état delta 1 de la bande de même spin qui sera aussi majoritaire. Par contre, si dans la configuration antiparallèle, eh bien, cette direction de spin va devenir minoritaire de l'autre côté, hein, parce qu'on a changé l'aimantation. Donc, l'électron qui veut passer, en fait, même s'il ne trouve pas de place pour la cuillère de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de symétrie delta 1 dans la bande de spin minoritaire dont l'électron ne peut pas passer, ce qui explique les très fortes magnétorésistances. Vous voyez, donc, je suis allé un peu, peut-être, c'est de la physique de la matière condensée, mais vous voyez que les progrès sont venus aussi d'une meilleure compréhension des symétries des fonctions d'onde dans les solides et du rôle de ces symétries dans le transport électrique, dans le transport tunnel. Évidemment, aussi, il faut que les interfaces soient très belles. Et il faut, pour réussir ces trucs-là, si on a des interfaces rugueuses, eh bien, ça mélange les symétries. On n'a pas un cristal parfait, les choses se dégradent. Et c'est, le résultat final est un ensemble de compréhension de la physique et puis de perfection technologique. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à des directions actuelles. Transfert de spin, transport d'aimantation par un courant, spintronique avec semi-conducteur, avec molécules. Je vais faire encore un peu de physique, ensuite je repasserai à des choses plus concrètes, parce qu'il y a une physique commune dans tout ce type d'expérience. Au fond, le principe général en spintronique actuellement, c'est on prépare un courant polarisé de spin avec un matériau magnétique. Et on va l'envoyer soit dans un autre métal non magnétique, soit dans un semi-conducteur, soit dans une molécule, un nanotube de carbone. Et le problème, c'est de le faire propager le plus loin possible dans ce deuxième matériau non magnétique. Et là, c'est gouverné par une même physique, qui est la physique de l'accumulation de spin, dont je vais dire deux mots pour montrer un exemple des problèmes qui se posent, à peu près dans toutes les branches de la spintronique actuellement. C'est le problème de l'accumulation de spin qui permet par diffusion d'injecter des spins à grande distance, donc d'avoir des dispositifs horizontaux de type transistor, etc. Au fond, on le voit apparaître, ces effets d'accumulation de spin, chaque fois que les électrons, au lieu d'être de longer les interfaces, traversent les interfaces. Par exemple, dans ces expériences où on fait de la magnétorésistance géante en courant perpendiculaire. On a déposé cette fois des multicouches dans des trous et on peut faire du courant perpendiculaire. Et surprise, on voit cette fois qu'au lieu d'apparaître simplement aux toutes petites épaisseurs, la magnétorésistance subsiste même au voisinage du micron. Donc on est passé de presque 3 ordres de grandeur pour observer les effets de magnétorésistance. Et ça, c'est cette physique de l'accumulation de spin qui fait que la longueur d'échelle dont j'ai dit qu'elle était le libre parcours moyen, quelques nanomètres, est devenue quelque chose qui s'appelle la longueur de diffusion de spin, qui est beaucoup plus longue, qui est de l'ordre du micron ou quelques microns, dans un tube de carbone, 50 microns. Donc, je vais dire quelques mots sur cette physique-là, et sur le nouveau type d'équation de transport. Ensuite, je reviendrai à des choses plus pratiques. Donc, le problème en transport électrique, c'est le suivant. Supposons, dans le cas le plus simple, une interface entre un métal magnétique et un conducteur non magnétique. Ça veut dire que de ce côté, assez loin, le courant est transporté essentiellement par un des canaux et également par les deux canaux de l'autre côté. C'est-à-dire ces électrons up, là, ils vont s'accumuler, hein, parce qu'il... l'accumulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une séparation entre les niveaux d'énergie, les potentiels chimiques, des deux directions de spin, en bleu et en rouge. Et cette accumulation, comme n'importe quelle accumulation dans un gaz, se diffuse, hein, diffuse, elle va diffuser sur une longueur, qui est la longueur de diffusion de spin, qui dépend du temps de renversement du spin, qui peut être relativement long. Ça veut dire que la longueur de diffusion de spin dans des nanotubes de carbone, ça va être de l'ordre de 50 microns, j'ai dit. Et donc, on va avoir cette... et d'autre part, cette accumulation de spin, c'est justement c'est une distribution hors d'équilibre, puisqu'il n'y a pas la même énergie de Fermi, le même potentiel chimique pour deux familles dans la même espèce de particules, génère des renversements de spin qui vont justement ajuster les flux, faire passer une partie de ce flux, c'est self-consistant, faire passer une partie de ce flux dans l'autre canal. Donc finalement, la situation peut se décrire. On va voir quand on a un courant qui traverse, quand on a un flux qui traverse une interface entre un corps magnétique et un corps non magnétique, on va avoir une large zone d'accumulation de spin dans laquelle ces renversements de spin vont progressivement dépolariser le courant. Et de l'autre côté, aussi, on a l'accumulation en sens opposé qui va polariser à partir d'une grande distance le courant. Et la physique, c'est ce point-là, il va déterminer essentiellement par la proportion de renversement de spin des deux côtés. S'il y a beaucoup de renversement de ce côté, ce point va être bas, hein, au contraire. Voilà. Donc ça, ça résume un peu les caractéristiques du transport en présence de ces effets de spin et ça nécessitait le développement d'un nouveau formalisme qui remplace les formalismes habituels qui aboutissent finalement à la loi d'Ohm, à la loi de Joule et tout ça. Hein. Donc c'est un nouvel formalisme où on remplace le potentiel électrique par un potentiel électrochimique qui tient compte à la fois qui tient compte de ces effets d'accumulation de spin et des courants de diffusion qui en résultent, hein, des courants de diffusion qui cherchent à étaler l'accumulation. Et donc, ça conduit à de nouveaux types d'équations qu'on peut appliquer un peu dans tous les cas de figure. En magnétorésistance, en courant perpendiculaire aux couches, il faut tenir compte beaucoup de l'interférence entre ce qui se passe à des interfaces voisines, l'interplay entre les accumulations voisines. Dans les semi-conducteurs, il y a des problèmes assez compliqués sur lesquels je vais revenir. Dans les problèmes de spin transfert, il faut considérer les situations non collinaires. Mais je veux dire deux mots, par exemple, et puis de ce qui se passe avec les semi-conducteurs. Parce qu'au fond, un gros effort a été fait pour combiner la spintronique avec les semi-conducteurs, et fusion entre électronique habituelle. Et là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes au départ qui commencent à être résolus pour la raison suivante. Supposons qu'on veut injecter à partir d'un métal magnétique dans un semi-conducteur. On a cette figure-là, mais au fond, la densité d'état est beaucoup plus importante dans le métal que dans le semi-conducteur. C'est-à-dire que au fond, pour la même séparation des niveaux, on va avoir quand même beaucoup plus d'accumulation de ce côté. Et pour des temps de relaxation de spin semblables, beaucoup plus de renversement de spin de ce côté, si bien que la dépolarisation va se passer de façon prépondérante dans le métal. Et le courant ne va pas pratiquement arriver polarisé dans le semi-conducteur. Ça a été une grosse difficulté, mais qu'on sait résoudre actuellement. Au fond, pour le résoudre, il faut rétablir un peu un équilibre entre les renversements, le nombre de renversements de spin des deux côtés. Et ça peut se faire en introduisant une jonction tunnel magnétique à l'interface qui introduit un saut différent pour les chutes de potentiel pour les deux directions de spin et qui permet d'introduire cette discontinuité dans l'accumulation de spin et de grossir l'accumulation de spin du côté semi-conducteur de façon que rééquilibrer le nombre de renversements de spin des deux côtés et arriver à quelque chose de progressif et à une injection dans le... Oui. Donc là, j'ai essayé de décrire, pour que vous ayez un sentiment sur les problèmes physiques. Il y a des problèmes de structure électronique, j'en ai parlé à propos des jonctions tunnels, de la symétrie des fonctions d'onde. Il y a des problèmes de transport aussi, de pur de transport, d'arriver à d'autres choses que les équations de Boltzmann habituelles ou la loi d'Ohm habituelle. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais passer à des... j'ai encore une dizaine de minutes... à des résultats récents, premièrement sur les problèmes de transfert de spin, c'est-à-dire de transport d'aimantation à distance par un courant électrique. Hein. Le concept très joli a été introduit par un physicien américain qui s'appelle John Klonczynski, et c'est un peu on va voir que c'est un peu le même principe que la pétanque. Hein. C'est, au fond, supposons que je prépare un courant polarisé de spin avec une première couche magnétique ici, et je suppose que j'ai créé un courant, et ce courant va traverser une deuxième couche, et je suppose que la direction de polarisation est oblique par rapport à l'aimantation de cette couche. Hein. Voilà. Donc ce courant va pénétrer, va passer, ces électrons vont passer, mais à l'intérieur, ils subissent un pseudo-champ magnétique, ce qui en fait une interaction d'échange, qui va aligner la polarisation du courant selon l'axe d'alimentation, ici. Ce qui veut dire que ces électrons, quand ils traversent, ils ont perdu cette composante transverse. Mais il se trouve que l'interaction d'échange est spin-conserving. Elle conserve le spin total du système. C'est comme une le spin, c'est une quantité de mouvement circulaire, hein, comme vous connaissez. Bon, à la pétanque, vous avez conservation de la quantité de mouvement linéaire. Donc là, ce qui veut dire que ce qui a été perdu comme moment angulaire de spin par les électrons, eh ben, il n'a pu qu'être donné au spin total du système, ce qui suppose donc une rotation, ce qui implique une rotation du spin du système ou encore un couple agissant sur l'aimantation. Bon, quand j'ai dit que c'est comme la pétanque, vous avez une boule, elle, si vous visez juste, elle s'arrête et sa vitesse, sa quantité de mouvement linéaire est transmise à l'autre boule qui repart avec la même vitesse. Là, c'est la même chose, mais pour le spin, c'est-à-dire pour la quantité de mouvement circulaire. Hein, ce qui est perdu par les électrons est donné au spin total de la couche, ce qui suppose une aimantation. Alors, ça peut être utilisé soit pour... Alors, ce que je dois dire aussi, qu'il faut quand même des densités de courant importantes hein, pour, si vous voulez, au fond, si vous voulez renverser un corps qui a 10 puissance 23 spin par centimètre cube, hein, il faut que vous envoyiez la quantité correspondante de spin de l'autre côté. Hein, donc il faut des densités de courant importantes et ça peut se faire que en confinant les courants dans des petits diamètres de l'ordre de 50 nanomètres, voyez, dans ces structures qu'on appelle des piliers. Hein, et dans cette structure de piliers, on aura une couche qui polarise le courant, celle du bas, et qui l'envoie à travers une couche de cuivre ou à travers une couche de tunnel, manipuler, hein, exciter l'aimantation, faire du transfert de spin vers la couche libre qu'on veut manipuler. Et ça c'est fait par des techniques de lithographie. Vous voyez, ça se perfectionne par rapport aux multicouches toutes simples du début. Et on peut l'utiliser soit pour renverser l'aimantation, hein, simplement. Et puis, supposons qu'on mette un champ magnétique qui empêche l'aimantation de se renverser, ben, là, ça va être le deuxième type de régime. Le système ne va plus savoir où aller et il va se mettre à précesser de cette façon l'aimantation de la couche libre. Et ça va générer des oscillations dans le régime radiofréquence. Hein. Le premier régime, bon, ben, c'est ça, c'est la commutation. C'est pas une commutation aussi simple que ça. Au fond, ça, c'est le schéma pour passer de parallèle à antiparallèle. Vous voyez que la trajectoire est assez compliquée. En fait, il y a de belles physiques dans le transfert de spin. Le couple de transfert de spin agit comme une friction négative, c'est-à-dire amplifie des oscillations, des fluctuations. Et les oscillations du moment magnétique, ce sont des petites précessions, et donc ça les amplifie et ça fait passer de l'autre côté. Et ça se traduit par, on détecte par un changement de résistance, puisqu'on passe d'antiparallèle à parallèle ou de parallèle à antiparallèle. Ici, en fonction du courant, la résistance en fonction du courant saute de parallèle à antiparallèle et puis d'antiparallèle à parallèle. Ça, c'est pour un truc cuivre-nickel, cuivre-permalloy. Ça, c'est avec des électrodes qui contiennent d'un ferromagnétique semi-conducteur qui contient uniquement quelques pourcents de manganèse. Du coup, pour renverser quelques pourcents de manganèse, il faut beaucoup moins de courant. Vous voyez, les densités de courant qui étaient encore, pour les applications technologiques, un peu fortes, si on diminue le nombre de spins à renverser, là, dans ce cas-là, est diminué par un facteur 100. Vous voyez. Donc, les applications, ça va être à la commutation, hein. Le passage au STT-RAM. Dans la première génération, j'avais dit qu'on commutait, on écrivait les mémoires en envoyant des pulses de courant qui créent des champs magnétiques circulaires, hein, qui vont. Mais ce n'est pas très local, ce n'est pas un adressage très local. Hein. Et dans la génération qui est développée actuellement par un certain nombre de compagnies, eh bien, la commutation, ça va se faire par transfert de spin, par un pulse de courant, une impulsion de courant directement en utilisant le principe du transfert de spin. Ça, c'est le schéma que je ne vais pas décrire. Et bon, on peut penser que cette fois, l'impact sur les technologies d'ordinateur va être important. Par exemple, voici un des projets qui est développé par Sony et par un certain nombre d'autres compagnies de microprocesseurs. Vous voyez, dans un microprocesseur, vous avez une partie logique, semi-conducteur, CMOS, hein, et une partie mémoire, c'est des mémoires SRAM et flash. Et les projets actuels de microprocesseurs remplacent la partie mémoire semi-conducteur, la mémoire CMOS, par une mémoire STT-RAM directement au-dessus de la logique, hein, ce qui non seulement réduit la taille, intègre un peu plus le microprocesseur, enfin diminue les dimensions, mais surtout diminue le nombre de transistors. Enfin, le nombre de transistors est divisé par 2 ou 3, et ce qui aussi donne une diminution de consommation d'énergie. Donc, vous voyez, il y a des projets très intéressants actuellement de STT-RAM dans la technologie des microprocesseurs. Il y a d'autres. Au fond, on peut dire que ce type de technologie, ça va dans le sens de plus en plus d'une fusion entre l'électronique classique et la spintronique. Au fond, il y a d'autres projets. D'autres projets que ceux-là, ce sont par exemple des transistors à spin, hein, aussi des mémoires, des portes logiques qui comprennent des éléments magnétiques pour qu'on puisse les reprogrammer pour avoir toutes les fonctions possibles de portes logiques. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont encore pour demain, mais enfin, il y a tout un tas de travail sur ce genre de structure hybride. Et si vous voulez, dans les problèmes généraux d'évolution de l'électronique, ce qu'on peut dire, c'est qu'on prépare quand même l'avenir. On sait que le progrès d'intégration de l'électronique, la diminution des tailles, va stopper avec les semi-conducteurs. Et on prévoit la fin de la loi de Moore à peu près dans 10 ans. Hein, et donc, beaucoup de gens déjà réfléchissent à comment aller plus loin et continuer à faire diminuer les tailles, progresser les vitesses, hein, ce qui va en même temps. Ces structures hybrides sont sans doute une première étape pour faire progresser. Au fond, ça, c'est typiquement quelque chose qui permet d'aller un peu au-delà de ce qui est possible uniquement avec les techniques habituelles des siliciums. Hein. Et puis, après, il y aura d'autres projets, la spintronique aussi, mais d'autres sciences réfléchissent déjà à la façon de continuer au-delà, l'évolution, au-delà de cette première étape qui comporte toujours une hybridation entre semi-conducteurs et autres matériaux. Le deuxième régime, j'ai dit, si j'ai un champ magnétique, l'aimantation de la couche libre, on va empêcher qu'elle se retourne, et donc elle va se mettre à précesser selon des trajectoires compliquées. On ne va plus avoir ces commutations ici, mais on va avoir, évidemment, au fur et à mesure, quand la couche libre a son aimantation qui précesse, comme ça, on voit que l'angle entre l'aimantation de la couche libre et de la couche fixe a une variation périodique. Et à cause de l'effet de magnétoresistance géante, ça veut dire que la résistance de la tricouche, c'est l'effet de magnétoresistance, a aussi une variation périodique. Hein. Entre le haut et le bas va apparaître une tension périodique à la fréquence de précession. Et donc ça donne finalement ce qu'on appelle une puissance micro-onde. Voici la puissance micro-onde en fonction de la fréquence pour un pilier permalloy, un alliage magnétique cuivre permalloy. Vous voyez, ici ça émet. Ça oscille à une fréquence de 3,7 GHz qui dépend en fait du courant. La propriété intéressante, ça va être l'agileté, la façon de régler facilement la fréquence de ces oscillateurs qu'on appelle maintenant STO, Spin Transfer Oscillator. La puissance est un problème. Avec les métaux, il n'y a pas assez de puissance. Et donc, avec des semi-conducteurs, avec des jonctions tunnels, la résistance est beaucoup plus élevée, Donc la variation, les oscillations de résistance sont beaucoup plus importantes. Et par exemple, dans ce type de structure avec MgO, eh bien, on obtient des puissances qui sont importantes. Au lieu, on passe de la gamme du nanowatt pour les métaux à du microwatt. Et pour des applications, il faut arriver au dixième de milliwatt. Hein. Donc, on est presque là. Hein. Donc, il y a encore un petit progrès à faire, mais à la fois, l'augmentation de la puissance de ces spin transfer oscillator, et puis réduction, c'est purifier la qualité spectrale, c'est-à-dire diminuer un peu la largeur des raies. D'ailleurs, bon, je donne un autre exemple pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses à ces spins, ils sont quand même très dociles, on peut leur faire faire beaucoup de choses, beaucoup de gymnastique. Ça, c'est notre type d'expérience, c'est toujours une jonction tunnel, MgO, la couche fixe, et la couche mobile est plus épaisse. Et à ce moment, on peut stabiliser à l'intérieur ce qu'on appelle des structures magnétiques vortex. À ce moment, un vortex, c'est une structure d'alimentation qui n'est pas uniforme, mais qui tourne en rond. Hein, pour que ça, c'est classique. Hein. Ça, c'est une photo de microscopie électronique qui montre que le haut et le bas n'est pas dirigé dans la même direction, dans ces piliers. Et à ce moment-là, le transfert de spin va permettre de faire bouger le centre de ces vortex. C'est joli comme... Et vous voyez, en transfert de spin, le centre des vortex va tourner en rond. Il tourne en rond, vous voyez que quand il est ici, l'aimantation dans la plus grande partie du pilier va être comme ceci. Et quand il est de l'autre côté, elle va être en sens opposé. Donc on a aussi des variations d'orientation relative de la couche libre où est le vortex et de la couche fixe. Et on a aussi une émission radiofréquence, ici dans la gamme presque au gigahertz, et cette fois avec une puissance qui est relativement importante, et surtout une largeur de V très fine qui est intéressante pour les applications. Hein. Voilà. Donc les applications, il va y en avoir sans doute, puisque ces oscillateurs ont une grosse qualité, c'est qu'ils sont agiles. C'est-à-dire qu'on peut régler leur fréquence en réglant un courant électrique. Hein, la fréquence varie. Donc, on prévoit déjà un certain nombre d'applications de ce type de STO, spin transfer oscillator. Il y a aussi la taille très petite. Actuellement, il y a des projets, par exemple, de tête de lecture, d'écriture, de disque dur, où on met un petit oscillateur là-dessus pour aider l'écriture, pour écrire plus facilement. Ça envoie un champ de hyperfréquence qui fait vibrer un peu le bit et permet de l'écrire plus facilement. Il y a aussi ce qu'on appelle la communication puce à puce à l'intérieur d'un même système. Mais il y a encore des progrès à faire. Il faut pouvoir osciller sans champ appliqué, mais ça, c'est déjà fait. Nous, on a un concept qui permet de faire ça. Il y a d'autres aussi. Il faudrait augmenter encore un peu la puissance et aussi réduire un peu la largeur de raie, mais ça peut se faire par synchronisation, ne pas opérer avec un simple bidule pilier de un dixième de micron, mais en mettant une petite collection. Je donne un exemple, ça c'est un exemple qu'on a réalisé récemment et qui marche bien. On injecte un courant à travers une tricouche, hein, le courant dont est localisé un peu comme dans un pilier. On s'est arrangé pour avoir des structures vortex, et ces structures vortex se mettent à bouger, et comme ceci, hein, le centre tourne, ça c'est une simulation, et ça émet à une certaine fréquence. Hein. Vous voyez que l'aimantation dans le petit trou du milieu où passe le courant, elle va tourner selon que le centre du vortex est à droite ou à gauche. Hein. Et donc ça émet aussi une bonne puissance assez intéressante, à une fréquence qui dépend aussi du courant. Et actuellement, ce qu'on a pu faire, c'est faire non seulement un nanocontact pour créer un vortex, pour créer un mouvement d'orgue, mais en faire une série, 4 par exemple, et ça se synchronise assez facilement. Il y a des interactions entre les deux vortex, ils cherchent à être toujours à peu près à la même distance, ils se repoussent l'un l'autre, ils synchronisent, tout au moins si les distances sont petites entre les deux. Si les distances sont de l'ordre du micro, on a pour quatre vortex, quatre pics différents. Ça, c'est la puissance en fonction de la fréquence. Et bon, ils ne sont pas synchronisés. On diminue ça au dixième de micron. Et à ce moment, on voit qu'à petits courants, des petits courants, on a encore quatre oscillations non synchronisées. Et puis, à partir d'une certaine gamme de courants, à partir d'un certain courant, eh bien, la puissance est beaucoup plus forte, synchronisation, et la largeur de ray est beaucoup plus fine. C'est donc un premier pas vers la réalisation d'arrangements de STO synchronisés de plus grande puissance et de plus grande finesse. Cette bande magnétique, bon, supposons qu'on ait une aimantation dans le sens opposé, de la droite et à gauche, on a entre les deux ce qu'on appelle une paroi de bloc. Et le transfert de spin peut permettre de déplacer ces parois de bloc, c'est-à-dire d'augmenter j'explique pas pourquoi, mais le transfert de spin, si on envoie un courant polarisé, on déplace aussi cette paroi de bloc. Un exemple ici, par exemple, voici une image qui montre cette espèce de ruban ici. Et les parois de bloc sont imagées d'une façon que je ne décris pas. Ça correspond à la transition entre noir et blanc. Et on voit qu'en envoyant des pulses de 5 nanosecondes, on déplace les parois de distance qui est de l'ordre de quelques microns. Vous voyez l'échelle là. Donc, vous voyez, il est possible aussi, par transfert de spin, de s'amuser à pousser des parois de bloc comme des boules sur un boulier. Et ça, je vais décrire une application qui risque d'être peut-être, je ne sais pas, intéressante. C'est l'application suivante. C'est une application développée à IBM et qui est la suivante. Le projet, c'est de déposer dans des tranchées, dans du silicium, ces espèces de rubans magnétiques comme ceci. Et de stocker l'information, c'est un projet qui ambitionne de remplacer le disque dur. Et le disque dur, ça a beaucoup de mémoire. C'est un défaut, c'est qu'il y a la partie mécanique. C'est celle qui casse. Si vous cassez le disque dur, c'est en général, c'est la partie mécanique. Si vous laissez tomber votre iPod, il y a des chances que vous cassiez le disque dur. Donc c'est le projet d'avoir l'équivalent de stockage de masse du disque dur avec purement solid state. Et l'idée, c'est de stocker l'information sous la forme de parois magnétiques, de parois de blocs. Ici, à un certain nombre de sites qui sont des encoches, on peut avoir soit une paroi, c'est-à-dire qui séparera une zone bleue et rouge, up et down, soit pas de paroi, ce qui sera l'information 0 ou l'information 1. Donc, on peut stocker l'information sous la forme d'un train. Où selon le wagon, il y aura 0 ou 1, selon qu'il y a une paroi ou pas. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de pousser, faire déplacer tout ce train par transfert de spin, par un courant polarisé de spin, comme représenté ici, de façon à pouvoir lire l'information avec un capteur magnétoïsant géant ici, ou l'écrire d'une autre façon. Là. Donc ça, c'est un projet actuellement développé qui a l'ambition de remplacer le disque dur. Je ne sais pas si ça va marcher. On est tous un peu sceptiques, mais enfin, on verra. Voilà. Donc, quelques mots pour terminer sur d'autres directions. Spintronic avait semi-conducteur. Évidemment, c'est l'intérêt de la fusion entre électronique classique et spintronique. Il y a des choses qui marchent. Par exemple, ça, c'est une spin LED. C'est-à-dire, il faut injecter à partir du fer. À travers une barrière, il faut injecter à travers une barre à tunnel, ça j'ai expliqué la physique, dans une LED, dans une light emitting diode, et la lumière du coup est polarisée circulairement, c'est ce qu'on appelle une spin LED. L'autre direction, ça c'est les structures hybrides, mélangées, métaux magnétiques et semi-conducteurs. L'autre direction qui a donné au début de bons résultats, c'est faire des semi-conducteurs ferromagnétiques. L'arsène de gallium dopomanganèse est un bon semi-conducteur magnétique, mais ça température, oui, les ferromagnétiques est basse, en dessous de 170 K, et on n'a pas pu arriver plus haut. Donc ça, c'est une voie qui est un peu qui a du plomb dans l'aile actuellement, puisqu'on s'aperçoit qu'il est très difficile de faire des semi-conducteurs ferromagnétiques à température ambiante, qui soient magnétiques à température ambiante. Mais c'est plutôt la voie des structures hybrides qui est développée. les structures de type spin transistor, si vous voulez. On injecte des spins à partir d'un ferro, on le fait passer dans un canal semi-conducteur. L'état passant et non passant correspond aux configurations parallèles et antiparallèles de la source et du drain. Et divers concepts ont été proposés pour flipper le spin entre les deux et commuter. Ça ne marche pas encore. Il y a encore des problèmes avec les semi-conducteurs. En fait, le défaut des semi-conducteurs, ils ont un temps de vie long. Il faut que le temps de vie long, mais il faut aussi que la vitesse des électrons soit rapide. Et les semi-conducteurs auront quand même un handicap de vitesse des électrons par rapport aux métaux. Et ça ne marche pas encore. Les métaux ont l'handicap de temps de vie de spin long, court, hein. La vitesse est grande. Par contre, des matériaux qui apparaissent très prometteurs, c'est les matériaux à base de carbone, type graphène, la couche d'atomes de carbone unique, ou replié, c'est les nanotubes de carbone, et tout un tas d'espèces de molécules. L'avantage général des matériaux carbonés, c'est que le temps de vie du spin dépendant du couplage spin en bit, il est faible pour le carbone, pour des éléments légers comme le carbone. Et ces matériaux actuellement, le graphène, le nanotube de carbone, semblent combiner à la fois le temps de vie du spin très long et une très grande vitesse des électrons, encore plus grande que dans les métaux, qui est très prometteuse pour tout ce qui est spintronique, et d'ailleurs pour l'électronique aussi. L'électronique avec le nanotube de carbone se développe, ou avec les molécules, se développe déjà. Par exemple, ça c'est une expérience, une collaboration avec Cambridge. On a fait du transport entre deux électrodes magnétiques à travers un tube de carbone, un nanotube de carbone relativement long. Et voyez, on a vu que dans le cas des métaux, il fallait rapprocher les deux électrodes assez près. Hein. Là, avec 1,5 micron, on a encore de très fortes différences de résistance, 72% entre les configurations parallèles et antiparallèles des électrodes. Et on sait ce qui correspond à une propagation de spin sur 40 microns dans le tube, ce qui permet de faire beaucoup de choses sur 40 microns, de faire des structures, une succession de portes logiques. Et on peut sans doute gagner un peu mieux. Théoriquement, on sait que si on arrivait à arranger les nanotubes le long de l'aimantation, de l'axe d'aimantation, on gagnerait beaucoup sur le temps de vie du spin. Donc il y a ce truc est en gros progrès actuellement. Il y a beaucoup d'espoir pour faire de la spintronique avec des matériaux à base de carbone, comme les nanotubes, comme le graphène. Le graphène, ce sera encore plus intéressant puisque c'est plat, ça permet d'utiliser toutes les technologies de lithographie, etc. Bon, je passe ça. Je dirais, bon, je passe aussi ça. Ça, c'est un. Pour terminer rapidement, ça, c'est une roadmap japonaise pour l'évolution de la spintronique, pour montrer, voir ce que j'ai dit et ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Donc, vous voyez que cette roadmap est très. Non, ça, c'est pas ça. Cette roadmap est très. Va jusqu'en 2035. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des histoires de storage, de mémoire. Hein. J'ai parlé de mémoire un peu, des mémoires à train de paroi. Il y a des histoires de logique, c'est-à-dire de MRAM, d'intégration de MRAM dans les microprocesseurs. Il y a des histoires aussi de. Là, c'est des histoires de. Ah oui, d'autres matériaux, des multiferroïques, d'autres types de jonctions tunnels, les semi-conducteurs, la fusion avec la physique des semi-conducteurs. Et il y a des choses dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est le spin photonique. J'en ai un peu parlé, mais très peu. Et puis le calcul quantique. C'est aussi une des voies pour le calcul quantique. Là, je n'ai pas eu le temps, ça aurait été trop long. Donc, vous voyez, tout ça, je ne vais pas le décrire, c'est très compliqué. Moi, ce que je vais dire en conclusion, simplement que c'est une science relativement jeune, la spintronique, et mais actuellement, ça se développe bien. C'est un petit bébé qui pousse pas mal. C'est ce qui était illustré, en fait, par le dernier schéma, où on voit le gros éléphant électronique et puis le petit bébé spintronique qui est en train de pousser. On verra ce que ça donne. Hein. Et le dernier truc, c'est pour remercier les gens qui travaillent avec moi. Donc, vous voyez en photo l'ambiance de notre labo. Il y avait du champagne ce jour-là, je crois. Ouais. Et merci pour votre attention. Et voilà, merci.